Suivre l'ordre qui était indiqué sur le programme. On commence avec l'exposé de Dimitra Colonia. S'identifier à son trouble. Alors vous savez que le thème de cette soirée, c'est troubles et symptômes. Voilà, donc Dimitra qui est psychanalyste à Paris.
Bonsoir. En fait, j'ai changé de thème d'argument parce que c'était prévu une soirée le 5 décembre. Et donc j'ai décidé entre-temps de faire autre chose, et je pourrais l'appeler « talking to », le « talk » par le « talk » tout professionnel et compulsif. Se justifie-t-il de substituer le terme de « trouble » à celui de « névrose » pour donner lieu, par exemple, au trouble obsessionnel compulsif? Peut-on lire dans l'argument de la présentation de notre séminaire. N'est-ce pas là une question portant sur le diagnostic et au fond sur la doctrine analytique et à travers les termes employés, une question portant sur la façon dont nous conceptualisons et orientons notre pratique? Derrière les termes de la névrose, pour nous qui sommes orientés par Freud et Lacan, n'y a-t-il pas l'idée qu'on s'est fait du symptôme? D'ailleurs, en suivant la question de l'argument, se justifierait-il de substituer le terme de trouble à celui de symptôme? Si oui, quel est le statut du trouble et du symptôme dans l'expérience analytique? On me dit que je suis malade, dit M. K, que je reçois en institution, arrivé avec le diagnostic de trouble de stress post-traumatique, trouble de sommeil et trouble de mémoire. Il ne sait pas quoi en penser de ce que l'hôpital et son entourage lui disent à propos de ces troubles. On lui dit qu'il a des troubles de mémoire, des troubles, des idées noires. Il prend des médicaments, mais ça ne lui fait pas effet. La dernière fois que je t'ai vu, il m'a dit, et c'était la première, ça m'a fait du bien un peu, dit-il. On lui dit qu'il a... Cet usage du trouble comme diagnostic venu d'un autre et pas du sujet lui-même, préalable à une cure et hors transfert, n'est-ce pas une différence radicale avec la place qu'on réserve au diagnostic et aux symptômes dans l'expérience analytique? Si l'analyste a un travail de séparation dès le début entre le sujet et l'autre, quelle voie peut-elle prendre la parole quand on n'assigne pas un sujet au trouble avec lequel il vient consulter? Il me semble que l'analyste, par son silence, son refus de répondre, rompt avec l'idée du dialogue ordinaire auquel le sujet est habitué, en marquant un au-delà de la parole. Ainsi, pour le sujet qui parle et qui ne reçoit pas de réponse, une nouvelle dimension de sa parole apparaît petit à petit, un écart se creuse entre ce qu'il pense dire et ce qu'il dit. La première fois que j'ai reçu M. K, il m'a dit d'anglais, c'était sa première parole, qu'il était difficile pour lui de parler tant qu'il ne connaissait pas la personne. Il restait silencieux, mais sans sollicitation particulière de ma part, il s'est très vite avéré que le silence le poussait à parler. Une temporalité intéressante de fermeture-ouverture s'est installée en cette séance. Des longs silences étaient interrompus par une phrase très importante qui ouvrait brièvement à un récit, et puis de nouveau un long silence, et ainsi de suite. Ne pas chercher à le faire parler, mais au contraire, en essayant de faire parler les symptômes à la place, en visant sa jouissance et son sens toujours singulier, dessine une rupture avec les discours dominants, dans lesquels baigne tout sujet à son arrivée. Mais en fait, faire parler quels symptômes? Qu'est-ce que j'en savais? N'est-ce pas l'envers de la logique diagnostique du DSM, du trouble, qui est là d'emblée, repérable, je peux dire à l'œil nu, conçu comme une perturbation ou désordre à éliminer, et non pas comme signe de la vérité d'un sujet, Le silence de l'analyste fait valoir quelque chose de l'inconscient, il me semble. Et c'est une rupture avec les savoirs et les valeurs établies, avec tout lien social que les sujets ont rencontré jusque-là, notamment M. K., qui vient d'un contexte culturel où il n'a jamais entendu parler de Freud, de l'inconscient et de l'association libre. J'ai choisi cette vignette clinique, alors que j'avais pensé, comme je dis initialement, d'écrire un texte théorique. Je l'ai choisi car le début de la cure de M. K. illustre bien certains points sur les troubles et les symptômes que je voulais interroger. Comment le sujet se positionne face à ces pas de côté que fait l'analyste à l'égard des troubles présentés dans l'orientation de la cure? Les troubles prennent-ils la forme d'un symptôme analytique? Le trouble cède-t-il la place à l'émergence d'un autre symptôme? La réponse ne peut qu'être singulière, je crois. Monsieur K., que je vois depuis 3 mois seulement, laisse de plus en plus de côté l'anonyme trouble de sommeil pour parler de ses cauchemars, construire un récit en parlant de son histoire. Les cauchemars, c'est toujours la même scène traumatique vécue dans son pays. Il dit, c'est comme un film, ça se répète, c'est toujours là. Monsieur K. laisse de plus en plus de côté l'anonyme trouble de stress post-traumatique pour questionner la répétition du traumatisme. Pourquoi ce traumatisme se répète, dit-il. Il évoque 2 moments différents où sa vie s'est bouleversée. Pourquoi ça arrive comme ça? Je n'ai pas de réponse. Ou encore, il peut dire, je vais encore me retrouver seule. Je suis seule depuis que je suis née. Ça se répète. Pourquoi? Mais aussi, Monsieur K. a été profondément déstabilisé lorsqu'un jour, je lui ai posé une question inattendue. Au fur et à mesure de nos séances, plusieurs déclinaisons de son angoisse de parler, c'est son propos, apparaissait jusqu'au jour où lui-même a fait le lien entre cette difficulté, c'était un autre terme qu'il employait, et la répétition. J'en cite un extrait. C'est toujours la même chose. Est-ce que ça peut changer? Ne pas parler, ça me rattrape. Je ne sais pas si c'est vrai, ça dure longtemps. C'est pour ça que je n'ai pas fait la demande d'asile. Je ne voulais pas parler. À chaque fois que je viens ici, ça me soulage. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai posé alors la question si dans le passé, il y a eu d'autres situations où il ne voulait pas parler. Dans un premier temps, il a répondu, j'ai dit ce qui s'est passé dans ma vie. Mais j'ai reformulé ma question. Et il a dit, je ne veux pas en parler. Et après un long silence, comment vous savez ça? C'est dur d'en parler. J'ai arrêté la séance en lui disant que ne pas vouloir parler n'était pas alors nouveau pour lui. Resté encore assis, il a rajouté, c'est quand j'étais enfant, mon père, ma mère, je ne veux pas en parler. À la séance suivante, il a fait plusieurs tentatives de parler des sujets plus anodins, entre autres de ses cauchemars, et du coup me faire parler, puisqu'il posait des questions, comment faire pour arrêter les cauchemars. Resté sans réponse, il a fini par dire, ce que vous m'avez demandé la dernière fois m'a perturbé. Il me semble que cette question a eu un effet de rupture au niveau du discours du sujet, le faisant entrer ainsi dans le jeu de l'association libre, parler par exemple de son enfance, de son père qui ne l'écoutait pas quand il lui parlait, des conditions de son naissance, etc. Le choix de cette vignette clinique est le prétexte pour aborder certains points. Sur l'actualité de la névrose, à partir d'une cure dans une institution, avec un sujet qui n'a pas la culture, non seulement de l'analyse, mais des psys en général, et qui, malgré l'étiquette des troubles et la question du traumatisme, il fait advenir un symptôme, je crois. C'est mon hypothèse. En jouant un peu avec notre thème, qui porte sur l'actualité de la névrose, je me demande, la névrose n'est-elle pas de toute façon actuelle? Ne sommes-nous pas appelés de traiter à chaque fois la question, les symptômes, de déchiffrer ce qui a été noué dans les textes de la névrose, comme dit Lacan? Dans un présent, un temps actuel, je cite Lacan, ce texte, donc de la névrose, est soumis à l'utilisation, dans la situation actuelle, d'un élément du passé du sujet comme élément signifiant. Lorsque nous abordons les éléments signifiants du texte, nous ne pouvons donc nous abstraire du fait qu'il se décompose en 2 termes situés en 2 points très éloignés dans l'histoire du sujet. Et pourtant, il nous faut bien résoudre les choses dans le mode d'organisation où elles sont actuellement. Monsieur K. l'exprime bien en repérant la question de la répétition. Est-ce que dans la dimension du trouble, telle conçue par le DSM, y a-t-il une dimension de temporalité, une dimension d'après-coup? Je pensais que peut-être le trouble du stress post-traumatique, avec cette référence au post, pourrait inclure une temporalité. Mais il me semble que le temps ici est un seul, cyclique, circulaire, comme un animal qui court derrière sa propre queue, et où la cause, l'événement, et son effet, le trouble, seraient un seul et même. Pour le TOC, la compulsion, c'est le trouble même. Et le trauma, c'est l'événement lui-même. Je crois. C'est comme ça que je l'ai lu. On dirait qu'il y a la compulsion sans la répétition. Freud, à travers par exemple les rêves traumatiques, découvre la compulsion des répétitions. Ce qui est répété, c'est le trauma subi, comme on a vu avec M. K. Le trauma, alors, n'est pas un fait, mais un effet. Ce qui est déterminant, ce n'est pas l'événement, mais l'éventuelle valeur traumatique pour le sujet. Ce qui constitue trauma pour l'un n'est pas pour l'autre. Alors, dans cette logique, comment concevoir la répétition dont parle le sujet, étant donné que l'idée même du trouble semble la rejeter? Quel espace pour questionner, pour adresser sa question, pour historiser? Car les symptômes n'existent qu'à partir du moment où le sujet peut le mettre en jeu, que dans une adresse. Il y a une différence notable avec la conception du trouble, qui n'est pas tant question du sujet, mais plutôt attribut de l'autre, je crois, c'est mon hypothèse. Si la névrose est ainsi une sorte de question fermée, dit Lacan, pour le sujet lui-même, mais organisée, structurée comme question, les symptômes se laissent comprendre comme les éléments vivants de cette question articulée, sans que le sujet sache ce qu'il articule. Pour ainsi dire, la question est vivante, et le sujet ne sait pas qu'il est dans cette question. Je crois que l'exemple de la difficulté de parler, de M. K., qui est certes un élément su du sujet, montre que pris et interrogé dans un nouveau contexte, insu jusque-là donc, il déstabilise l'intention du sujet, ouvrant ainsi un nouvel espace de questionnement et la mise en place aussi du transfert. Ça ouvre aussi, là je ne parle pas de M. K. puisqu'il n'en est pas du tout là, mais ça ouvre, d'une manière plus générale, la possibilité au sujet de savoir qu'il est dans la question, et aussi de se repérer dans sa structure, quant à sa jouissance. Quel savoir avec la logique du TSM? Je ne vois pas comment nous pourrions réduire les symptômes à un trouble, quand justement, ce qui pour la psychanalyse ne cesse pas de ne pas s'écrire, doit le cesser pour le DSM. Je ne vois pas non plus comment réduire la névrose à un TOC. Freud donne une réponse à propos de la névrose obsessionnelle dans ses conférences sur les symptômes, que je trouve très actuelle à propos des TOC. Je le cite. La psychiatrie donne des noms aux différentes compulsions, mais ne dit rien d'autre sur elles. En contrepartie, elle souligne que les personnes porteuses de tels symptômes sont dégénérées. Cela est peu satisfaisant, c'est proprement un jugement de valeur, une condamnation au lieu d'une explication. Le nom dont parle Freud, le nom de compulsion, m'a interpellé à vrai dire. Est-ce qu'au fond, le névrosé qui est à la recherche d'un nom, dans la logique du DSM, trouve-t-il un nom commun, attribué par l'autre, alors que dans une analyse, justement, l'analyste, ne répondant pas à la demande, amène le sujet à la fin d'une analyse à trouver son propre nom, son nom propre, qui est celui de son symptôme? Est-ce que pour cela, et en paraphrasant Lacan, faudrait-il que l'analyste ait un désir justement anonyme? Merci.